en gagnant mon pain, sixième partie. Maintenant que j'étais résolue à voler, je me rappelais ses paroles, son sourire confiant, et je sentis combien il me serait difficile de le tromper. À plusieurs reprises, je sortis d'une poche quelques pièces blanches. Je les comptais, sans me décider à les garder. Pendant 3 jours, je me tourmentais de la sorte, quand soudain, tout s'arrangea le plus simplement du monde. Le patron me demanda à brûle-pourpoint. « Qu'as-tu, Peshkov? Tu as l'air ennuyé. Es-tu malade ?» Je lui avouai franchement tous mes chagrins. Il grommela. « Là, tu vois où ils vous conduisent, ces fameux livres. D'une manière ou d'une autre, il n'en résulte que du mal. » Il me donna 50 kopecks en m'enjoignant sévèrement « Prends garde !» N'en parle pas à ma femme ni à ma mère, il y aurait du vacarme. Puis, avec un sourire amical, il ajouta « Tu es obstiné, que le diable t'emporte. Ça ne fait rien, au contraire, mais laisse les livres. Au nouvel an, je m'abonnerai à un bon journal, alors tu pourras lire. » Depuis l'heure du thé jusqu'au souper, je lis à haute voix pour mes patrons la Gazette de Moscou et ses feuilletons. Les romans de Vashkov, de Rokchanin, de Roukhnikovski et autres littératures à l'usage des gens que l'ennui tue. Je n'aime pas à lire à haute voix, car alors je comprends difficilement ce que je lis. Mes patrons écoutent avec attention et même avec une sorte de pieuse avidité. Ils poussent des exclamations, s'étonnent de la noirceur des personnages et ils se disent fièrement l'un à l'autre « Nous, nous vivons d'une autre manière. Nous sommes paisibles et tranquilles. Nous ignorons toutes ces vilainies, Dieu merci. » Qu'ils étaient pénibles ces soirs d'hiver passés sous les yeux de mes patrons, dans la petite pièce exiguë. Au dehors, une nuit profonde. De temps à autre, le gel fait craquer les choses. Les gens sont assis autour de la table et se taisent, pareils à des poissons gelés. Fréquemment, la tempête de neige flagellait les carreaux et les murs, sifflait dans les cheminées, affolait les girouettes. À côté, les bébés pleuraient. J'avais envie de me tapir dans un recoin obscur et, pelotonné sur moi-même, de hurler comme un loup. Les deux femmes sont assises à un bout de la table. Elles cousent ou tricotent. À l'autre extrémité, Victor, courbé, recopie à contre-cœur des projets. De temps à autre, il crie « Ne secouez pas la table, il n'y a pas moyen de vivre !» À l'écart, installé devant un immense métier, le patron brode au point de croix une nappe de toile. Sous ses doigts apparaissent des écrevisses rouges, des poissons bleus, des papillons jaunes et des feuilles d'automne rousses. Il a composé lui-même le dessin de sa broderie, et c'est le 3e hiver qu'il y travaille. Il en a assez de cet ouvrage, et souvent, quand j'ai un moment de loisir pendant la journée, il me dit « Hé, Peshkov, attelle-toi à la nappe. Allons, remue-toi. » J'obéis, et je remue la grosse aiguille. Le patron me fait peine, et j'ai toujours, en tout, le désir de l'aider, selon mes moyens. Il me semble toujours prêt à abandonner dessin, broderie, jeu de cartes et disposé à entreprendre quelque autre chose intéressante à quoi il songe sans cesse. Parfois, il interrompt son ouvrage tout à coup. Il le regarde avec des yeux fixes et étonnés comme s'il ne l'avait jamais vu. Ses cheveux tombent épars sur le cou et les joues et le font ressembler à un novice au couvent. « À quoi penses-tu ? » lui demande sa femme. « Rien, » répond-il. Et il se remet à la besogne. Peut-on demander à quoi pense un homme? Il est impossible de répondre à cette question. On pense simultanément à beaucoup de choses, à tout ce qu'on a sous les yeux, à ce qu'on a vu hier et l'année passée, et tout est confus, insaisissable, se meut et se transforme. Les feuilletons de la Gazette de Moscou était court pour une soirée entière. Je proposais de lire les revues empilées sous le lit dans la chambre à coucher, mais la jeune femme déclara Il n'y a rien à lire dedans, ce ne sont que des gravures. » Cependant, je trouvais sous le lit non seulement la revue pittoresque, mais aussi la flamme. Je commençai la lecture du conte Tiatin Baltinski de Salias. Le héros, un peu niais du roman, plut beaucoup au patron, qui riait à en pleurer des aventures lamentables du jeune seigneur. Il s'exclamait « Ah, cela, c'est une histoire amusante !»« Démenterie, plutôt !» ajoutait sa femme pour manifester l'indépendance de son jugement. Cette littérature de dessous le lit me rendit un immense service. Je conquis le droit de prendre les journaux à la cuisine, ce qui me permit de lire pendant la nuit. Pour mon grand bonheur, la vieille dormait dans la chambre des enfants, et la bonne passait par une belle crise d'ivrognerie. Victor ne me gênait guère. Quand tout le monde sommeillait dans la maison, il s'habillait sans bruit et disparaissait jusqu'au matin. On ne me donnait pas de lumière, on emportait les bougies dans les chambres, et je n'avais pas d'argent pour en acheter. Alors je me mis à récolter en cachette le suif des chandelles. Je le mettais dans une boîte à sardines, j'achevais de remplir la boîte avec de l'huile à brûler, et après avoir fabriqué une mèche avec des fils tordus, j'allumais la nuit, sur le poêle, un lumignon fumant. Quand je tournais les pages du gros volume, la petite langue rouge de la flamme tremblotait et menaçait de s'éteindre. La mèche, à chaque instant, se noyait dans le suif fondu et malodorant. La fumée me faisait mal aux yeux. Mais tous ces inconvénients s'oubliaient dans mon plaisir à regarder les illustrations et à lire les légendes. Ces illustrations me révélaient la terre, l'ornaient de villes merveilleuses, me montraient les hautes montagnes et les splendides rivages de la mer. La vie se développait miraculeusement. La terre devenait toujours plus séduisante, plus riche en êtres humains et en cités, et de plus en plus diverse. Maintenant, quand je regardais au loin, au-delà de la Volga, je savais que là-bas, ce n'était pas le désert. Auparavant, à ce spectacle, j'éprouvais de l'ennui. Les prés étaient plats, les buissons ressemblaient à des pièces rapportées. À leur extrémité, un mur noir et crénelé, la forêt. Au-dessus, un ciel bleuâtre, froid et trouble. Sur la terre, c'était le vide, la solitude. Et mon cœur aussi se vidait. Une mélancolie douce s'emparait de moi. Tous mes désirs s'anéantissaient. Rien n'occupait ma pensée. J'avais envie de fermer les yeux. Le vide désolé ne promettait rien, et il semblait aspirer la substance même de mon cœur. Plus tard, je fis connaissance avec le pharmacien Goldberg. Cet homme savait traduire les mots savants. Il possédait la clé de tous les mystères. Rajustant ses lunettes avec deux doigts, il me regardait fixement à travers les gros verres et disait, comme s'il m'eût planté des petits clous dans le front, « Compare les mots, mon ami, aux feuilles d'un arbre. Pour comprendre les feuilles, leur forme, leur fonction, il faut savoir comment pousse l'arbre. Étudions. Les livres, mon ami, sont comparables à un grand jardin où il y aurait de tout, de l'inutile, de l'excellent et de l'agréable. » J'allais souvent chez lui, à la pharmacie, pour acheter du carbonate et de la magnésie destinés à mes patrons, tourmentés sans cesse par les indigestions, ou de la pommade et des purgatifs à l'usage des enfants. Les brèves leçons du pharmacien m'inspiraient une révérence toujours plus vive pour les livres. Peu à peu, ils me devinrent aussi indispensables que l'eau-de-vie à un ivrogne. Ils me révélaient une existence différente de la mienne, la vie des grands sentiments et des grands désirs, de ce qui pousse les hommes aux nobles exploits et aux crimes. Je remarquai que les gens qui m'entouraient n'étaient capables ni de bien ni de mal. Ils vivaient à l'écart de tout ce dont s'occupaient les livres. Il m'était difficile de trouver quoi que ce fût d'intéressant dans leur plate existence. Je ne voulais pas vivre de la sorte. C'était résolu, je ne le voulais pas. D'après les représentations des gravures, je savais qu'à Prague, à Paris, à Londres, il n'y avait pas de ravin au milieu de la ville, ni de chaussée sale jonchée de détritus. Les rues y étaient larges et droites, les églises et les maisons différentes d'ici. Là-bas, il n'y avait pas d'hiver rigoureux long de 6 mois, retenant les gens dans leur demeure. Il n'y avait pas de grand carême, où l'on ne devait manger que du chou aigre, des champignons au sel et des pommes de terre assaisonnées d'huile d'œillette qui me répugnait. Pendant le grand carême, défense de lire. Mes patrons m'enlevèrent la revue pittoresque, et ce fut de nouveau la vie morne et vide. Maintenant, je pouvais la comparer avec ce que je savais par les romans et les descriptions, et elle me semblait encore plus misérable et monstrueuse. Quand je lisais, je me sentais plus fort, plus robuste, je travaillais plus vite et mieux. J'avais un but. Plus tôt j'aurais fini, et plus il me resterait de temps pour la lecture. Privé de livres, je devins paresseux, indifférent. Une distraction maladive que je ne connaissais pas auparavant, s'empara de moi. Je me rappelle qu'à cette période de vide, survint un événement mystérieux. Un soir, comme tout le monde était couché, la cloche de la cathédrale résonna tout à coup. Ce bruit troubla les habitants de la maison. À demi vêtus, ils se précipitèrent aux fenêtres en se demandant les uns aux autres « Est-ce le feu ? Est-ce le tocsin ?» On entendait dans tous les appartements le même remue-ménage. Des portes claquaient. Quelqu'un courut à travers la cour en tenant un cheval par la bride. La vieille patronne criait qu'on avait dévalisé la cathédrale. Mon patron essayait de la calmer. « Voyons, maman, vous comprenez bien que ce n'est pas le tocsin. »« Alors, c'est l'archevêque qui est mort. » Victor descendit de la soupente, s'habilla en marmottant. « Moi, je sais ce qui est arrivé, je le sais. » Le patron me fit monter au grenier pour regarder s'il n'y avait pas de rougeur au ciel. J'y courus et je grimpai sur le toit par la lucarne. On ne voyait rien de spécial. Dans l'air glacial et silencieux, la cloche battait sans précipitation. La ville endormie s'était tapie sur le sol. Dans les ténèbres, des gens invisibles couraient en faisant crisser la neige sous leurs pas. Des fers de traîneau grinçaient, et le son de la cloche devenait toujours plus lugubre. Je retournai dans l'appartement. On ne voit pas d'incendie. Ah, mon Dieu ! Dit le patron, vêtu de son pardessus et coiffé d'une casquette. Il avait relevé son col et mettait ses caoutchoucs d'un air indécis. Sa femme le suppliait. Tu ne vas pas sortir, entends-tu ? Ne sors pas ! Nigaud ! Victor, habillé lui aussi, taquinait tout le monde. « Moi, je sais ce que c'est. » Quand les deux frères furent partis, les femmes m'ordonnèrent d'allumer le samovar et se précipitèrent à la fenêtre. Mais, presque aussitôt, le patron sonna à la porte d'entrée, monta l'escalier à la hâte et, ouvrant la porte du vestibule, il dit d'une voix changée « On a assassiné le tsar !» « Vous voyez bien qu'on a tué quelqu'un !» s'exclama la vieille. « On l'a assassiné, c'est un officier qui me l'a appris. Que va-t-il se passer ?» Victor revint aussi, et tout en se déshabillant, il maugréa. « Moi, je croyais que c'était la guerre. » Ils s'assirent tous quatre pour prendre le thé, en conversant tranquillement, mais à voix basse et avec prudence. Dans la rue, pareillement, le calme se rétablit. La cloche se taisait. Pendant 2 jours, ils chuchotèrent d'un air de mystère. Ils s'en allèrent je ne sais où. Des gens vinrent en visite et racontèrent en détail je ne sais quoi. Je m'efforçais de comprendre ce qui s'était passé, mais les patrons m'enlevaient les journaux. Quand je demandai à Sidorov pourquoi on avait tué le tsar, il me répondit à mi-voix « Il est défendu d'en parler !» L'émotion s'effaça très vite, se perdit sous les menus faits quotidiens. Peu après, il m'arriva une histoire désastreuse. Un dimanche, comme mes patrons étaient à la messe, J'allumai le samovar et m'en allai mettre de l'ordre dans une chambre. L'aîné des enfants, se glissant dans la cuisine, dévissa le robinet du samovar et s'installa sous la table pour jouer. Le foyer du samovar était vif, et lorsque toute l'eau se fut écoulée, la bouilloire devint incandescente et commença à fondre. De loin, j'entendais que le samovar sifflait avec un bruit anormal, et quand je revins à la cuisine, je vis avec effroi qu'il bleuissait et qu'il oscillait comme s'il se préparait à sauter du sol. L'emboîture du robinet, complètement fondue, pendait d'une manière lamentable. Le couvercle était tout de travers. Des gouttes d'étain coulaient des anses. Le samovar, bleu et violacé, avait l'air complètement ivre. Je l'aspergeai d'eau, il se mit à siffler et s'effondra tristement. On sonna à la porte d'entrée. J'allai ouvrir. Quand la vieille me demanda si le samovar était bouillant, je répondis brièvement « bouillant ». Ce mot, jeté au hasard dans mon affolement, fut considéré comme une insolence et décupla le châtiment. On me fouetta. La vieille se servit d'une poignée de branches de sapin. Ce ne fut pas très douloureux, mais il en résulta sous la peau de mon dos une quantité de profondes échardes. Vers le soir, j'étais enflé comme un oreiller, et le lendemain, vers midi, le patron fut obligé de m'emmener à l'hôpital. Quand le docteur, qui était long et maigre à faire peur, m'eut examiné, il déclara tranquillement, d'une voix de basse profonde, « Il faut dresser procès-verbal pour mauvais traitement. » Le patron rougit, remua les pieds et se mit à chuchoter je ne sais quelle parole au docteur. Celui-ci, regardant par-dessus la tête du patron, répondit brièvement « Impossible, je ne peux pas. » Puis il me demanda « Veux-tu porter plainte ?» Je souffrais, mais je dis « Non, guérissez-moi vite. » On me conduisit dans la pièce voisine, on me coucha sur une table. Le docteur se mit à enlever les échardes avec des pinces, tout en plaisantant. « Eh bien, mon ami, on t'a joliment arrangé la peau. Tu vas être imperméable. » Quand il eut achevé son travail, qui me chatouillait d'une manière insupportable, il me dit « Je t'ai retiré 42 brindilles, mon ami. Rappelle-toi ça, tu pourras t'en vanter. Demain, tu reviendras à la même heure te faire panser. On te bat souvent ?» Je réfléchis et je répondis « Autrefois, on me battait davantage. » Le docteur se mit à rire. « Alors, tout est pour le mieux, mon ami. » Lorsqu'il me ramena vers le patron, il lui dit « Tenez, le voilà, il est réparé. Envoyez-le demain pour le pansement. Vous avez de la chance qu'il prenne les choses du bon côté. » Dans le fiacre, le patron me dit « Moi aussi, on m'a battu, Peshkov. Qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai été bien battu, mon garçon. On te montre quelques égards. Je n'étais plaint par personne. J'étais entouré de gens sans cœur. Ah, les hommes !» Pendant tout le trajet, il ne cessa de récriminer. Il m'attendrissait. Je lui étais très reconnaissant de ce qu'il me parla d'une manière sensée et humaine. Je fus reçu comme si ça avait été mon anniversaire. Les deux femmes m'obligèrent à leur raconter ce que le docteur avait fait, ce qu'il avait dit. Elles écoutaient et s'exclamaient en faisant la grimace, en claquant de la langue avec volupté. Leur intense intérêt pour la maladie, pour les souffrances physiques et morales, m'étonnait toujours. Je voyais qu'elles me savaient gré d'avoir refusé de porter plainte, et j'en profitais pour demander l'autorisation de prendre des livres chez la coupeuse. Elles n'osèrent me l'interdire. La vieille s'écria avec étonnement « Tu es un vrai démon !» Le surlendemain, je montai chez la coupeuse. Elle me dit gentiment « On m'a raconté que tu étais malade, qu'on t'avait emmené à l'hôpital. Vois-tu comme les gens mentent !» Je gardai le silence. J'aurais eu honte de lui faire connaître la vérité. À quoi bon lui révéler des choses tristes et brutales? J'étais si heureux de ce qu'elle ne fût pas semblable aux autres. Et de nouveau, je lis de gros volumes. Dumas, père. Ponson du Terrail. Montépin. Zacone. Gaborio. Aymar, bois gobé. Je dévore ces livres très vite, l'un après l'autre, et je suis joyeux. Je sens que je participe à une vie extraordinaire, à une vie qui m'émeut doucement et m'excite à la vaillance. De nouveau, j'allume mon primitif lumignon. Je lis pendant des nuits entières jusqu'à l'aube. Les yeux me font un peu mal, et la vieille patronne me prévient aimablement. « Attends, ils vont t'user les yeux. Tu deviendras aveugle, mangeur de livres. » Cependant, je compris bientôt que dans tous ces livres aux intrigues si intéressantes, malgré la diversité des événements, la différence des pays et des villes, il n'était question que d'une même histoire, l'histoire de braves gens qui étaient malheureux et poursuivis par les méchants. Les méchants étaient toujours plus heureux, plus intelligents que les bons. Mais pour finir, quelque chose d'insaisissable écrasait les méchants, et les bons avaient infailliblement la victoire. L'amour, dont tous les hommes et les femmes parlaient avec les mêmes mots, m'ennuyait profondément. Cette monotonie était non seulement lassante, mais encore elle excitait en moi un vague sentiment de malaise. Parfois, dès les premières pages d'un livre, je commençais à deviner quel serait le vainqueur, quel serait le vaincu. Et dès que le nœud des événements m'apparaissait nettement, j'essayais de le dénouer par la force de ma fantaisie. Mais derrière tout cela, je voyais les reflets d'une vérité vivante et importante pour moi, les contours d'une vie différente, de rapports différents. Je constatais qu'à Paris, les cochers, les ouvriers, les soldats et tout le petit peuple n'étaient pas comme à Nijni, à Perne ou à Gazan. Ils parlaient avec plus de hardiesse au maître. Ils avaient vis-à-vis d'eux une attitude plus fière et plus indépendante. Les prêtres, dans ces livres, ne ressemblaient pas à ceux que je connaissais. Ils avaient plus de cordialité et de compassion pour autrui. En général, d'après ce qu'en disaient les écrivains, la vie à l'étranger était plus intéressante, plus facile, plus belle que celle que je connaissais. À l'étranger, on ne se battait pas si souvent que chez nous, ni avec autant de brutalité. On ne tourmentait pas les gens avec cette férocité dont j'avais vu tant d'exemples. On ne priait pas Dieu d'une façon aussi extravagante que le faisait la vieille patronne. À chaque livre nouveau, cette dissemblance entre la vie russe et celle des autres pays m'apparaissait plus nette et me causait un vague dépit. Elle accroissait en même temps ma méfiance au sujet de la véracité de ces feuilles jaunies au coin sale. Et soudain, un roman de Goncourt, Les frères Zamgano, me tomba entre les mains. Je le lus d'un coup, en une seule nuit, et, étonné par quelque chose que je n'avais jamais éprouvé jusqu'alors, je relus une seconde fois cette histoire simple et mélancolique. Elle n'avait rien de compliqué, rien qui fît sensation. Dès les premières pages, elle était sérieuse et sèche comme la vie des saints. Tout d'abord, sa langue, si précise et dépourvue d'ornements, me surprit désagréablement. Mais les paroles brèves, les phrases bien charpentées, se gravaient avec une telle facilité dans mon cœur, racontaient si bien le drame des deux acrobates, que mes mains tremblaient du plaisir que je ressentais à lire ce livre. Je sanglotais tout haut en reprenant le passage où le malheureux artiste, les jambes brisées, se hisse au grenier où son frère s'adonne en secret à leur art favori. Quand je remis ce beau roman à la coupeuse, je la priai de m'en donner un autre du même genre. « Que veux-tu dire? De quel genre ?» me demanda-t-elle avec un petit rire. Troublée par ce rire, je ne sus expliquer ce que je désirais, et elle me dit « Tu as trouvé l'ouvrage ennuyeux? Attends, je vais t'en donner un autre plus amusant. » Quelques jours se passèrent. Elle me donna « L'histoire authentique d'un petit vagabond » de Greenwood. Le titre du volume me déplut quelque peu. mais la première page me séduisit et me fit sourire de ravissement. Et ce fut avec le même sentiment que je dévorai ce livre, revenant jusqu'à deux ou trois fois aux mêmes épisodes. Greenwood me donna beaucoup de courage. Bientôt après, ce fut Eugénie Grandet, un véritable grand livre, un livre comme il faut, que me prêta la coupeuse. Le vieux Grandet me rappelait absolument grand-père. J'étais à la fois ennuyée que le récit fût si bref et émerveillée de toute la vérité qu'il contenait. Chez les Goncourt, chez Greenwood et chez Balzac, on ne rencontrait ni scélérats parfaits, ni individus irréprochablement honnêtes. Il n'y avait que des êtres humains, prodigieusement vivants, on en pouvait douter. Tout ce qu'ils disaient et faisaient était d'une logique absolue et n'aurait pu être autrement. Quand je me rendais chez la coupeuse, je mettais une chemise propre. Je me coiffais, je m'efforçais d'avoir l'air le plus convenable possible. J'y réussissais difficilement, mais j'espérais pourtant qu'elle remarquerait ma correction et qu'elle me parlerait d'une manière plus simple et plus confiante, sans ce sourire figé sur son visage propre et d'expression un peu détachée. Mais elle souriait et me demandait de sa voix douce en me donnant un livre. « Tu l'as lu ?»« Non. » Haussant un peu ses minces sourcils, elle me regardait, soupirait et se remettait à nasiller. « Pourquoi ?»« J'ai déjà lu bien des choses sur ce sujet. »«
Sur quel sujet ?»«
Sur l'amour. » Les paupières clignotantes, elle riait d'un petit rire sucré. « Mais tous les livres traitent de l'amour !» Assise dans un grand fauteuil, elle agite ses petits pieds chaussés de fourrure. Elle bâille, se pelotonne dans sa robe de chambre bleue. Elle tapote de ses doigts roses la reliure noire du volume posé sur ses genoux. J'ai envie de lui demander « Pourquoi ne déménagez-vous pas ? Les officiers continuent à vous écrire des billets et à se moquer de vous. » Je n'ai pas le courage de parler. Et je m'en vais, emportant un gros livre sur l'amour et une profonde déception dans le cœur. Dans la cour, on parle de la coupeuse avec une méchanceté et une obscénité toujours croissantes. Je suis très mortifiée en entendant ces racontars malpropres et sans doute mensongers. Quand je ne la vois pas, j'ai pitié d'elle, j'ai peur pour elle. Mais quand je suis en sa présence, devant ses petits yeux perçants, la souplesse féline de son petit corps, son expression d'éternelle oisiveté, ma compassion et ma peur s'évanouissent comme une fumée. Au printemps, elle partit subitement. Elle alla je ne sais où. Quelques jours plus tard, son mari déménagea. Pendant que l'appartement était vide, dans l'attente d'un nouveau locataire, je montais regarder les murs nus, où des taches carrées marquaient l'emplacement des tableaux, où restaient encore des clous tordus et des éraflures. Sur le plancher verni traînaient des chiffons de toutes couleurs, des morceaux de papier, des boîtes de pilules déchirées, des flacons de parfums vides, une grosse épingle en laiton qui brillait. J'étais tout triste. J'aurais voulu revoir encore une fois la petite coupeuse, lui dire combien je lui étais reconnaissant. Chapitre 13. Avant son départ, l'appartement situé au-dessous d'une autre avait été loué par une jeune femme aux yeux noirs. Elle l'habitait avec sa fillette et sa mère, une vieille petite dame à cheveux blancs qui fumait éternellement des cigarettes à l'aide d'un porte-cigarette d'ambre. La dame était très jolie. Hautaine, autoritaire, elle parlait d'une voix agréable et pleine, regardait tout le monde de haut en bas en fermant un peu les paupières, comme si les gens eussent été très loin d'elle et visibles à peine. Presque tous les jours, le soldat Tioufaïef conduisait à sa porte un cheval bai aux jambes fines. La dame sortait en robe amazone de velours gris et très longue. Elle portait bottes jaunes et gants blancs à revers. Tenant d'une main la queue de sa robe et une cravache dont le pommeau était orné d'une pierre violette, Elle caressait affectueusement de l'autre main le museau du cheval, qui dardait sur elle un œil de feu. Tout secoué de frissons, l'animal labourait la terre piétinée. « Robert ! Robert !» disait doucement la dame, et elle flattait le cheval sur son cou harmonieusement tendu. Puis, posant le pied sur le genou du soldat, elle sautait en selle avec légèreté, et le cheval, piaffant fièrement, partait le long de la chaussée. Elle se tenait si bien qu'elle semblait ne faire qu'un avec sa monture. Elle était belle de cette beauté rare qui semble toujours nouvelle, troublante, et qui remplit le cœur d'une joie délicieuse. En la regardant, je me disais que sans doute Diane de Poitiers, la reine Margot, Mademoiselle de la Vallière et les autres héroïnes de mes romans historiques avaient dû être comme elle. La dame recevait beaucoup. Elle était constamment entourée d'officiers de la garnison. Tous les soirs, c'était sauterie, chant, musique instrumentale, piano, violon, guitare. Le major Olesoff, plus que les autres invités, tourbillonnait autour d'elle sur ses courtes petites jambes. Corpulent, rougeaud, chauve, il était graisseux comme un chauffeur de bateau. Il pinçait fort bien la guitare, et en tout, il se montrait le cavalier servant de la dame. Douée de la même beauté que sa mère, la fillette, âgée de 5 ans, était toute ronde et bouclée. Ses grands yeux bleus avaient une expression grave et sereine. On remarquait en elle quelque chose de pensif qui n'était pas enfantin. Du matin au soir, la grand-mère s'occupait du ménage, ainsi que le soldat Tioufaïev. Taciturne et maussade, et une grosse femme de chambre aux yeux bigles. L'enfant n'avait pas de bonne, elle vivait presque sans surveillance, jouant pendant des journées entières sur le perron ou sur un tas de poutres dans la cour. Souvent, le soir, nous jouions ensemble, et je finis par m'attacher à elle. Elle s'accoutuma très vite à moi. Elle s'endormait dans mes bras quand je lui racontais des histoires. Je la portais ainsi dans son lit. Bientôt, elle en prit si bien l'habitude que lorsqu'elle se couchait, elle exigeait que je vinsse lui souhaiter bonne nuit. J'arrivais, elle me tendait gravement sa menotte potelée et disait « Au revoir, à demain. Grand-mère, est-ce ainsi qu'il faut dire ?»«
Que le Seigneur te garde !» ajoutait la grand-mère.
Des jets de fumée bleue sortaient de sa bouche et de son nez pointu. « Que le Seigneur te garde jusqu'à demain, et je vais dormir !» répétait la fillette, s'enveloppant dans une couverture garnie de dentelles. La grand-mère la reprenait. « Pas jusqu'à demain, mais toujours !»« Est-ce que demain n'est pas toujours ?» Elle aimait le mot « demain », et elle mettait au futur tout ce qu'elle aimait. En plantant dans la terre des fleurs arrachées, des rameaux brisés, elle disait « Demain, ce sera un jardin. Demain, je m'achèterai un cheval, et je le monterai comme maman. » Elle était intelligente, mais pas très gaie. Souvent, au milieu d'un jeu animé, elle s'arrêtait soudain, réfléchissait et demandait à l'improviste « Pourquoi les prêtres ont-ils des cheveux comme les femmes ?» Elle se piqua avec des orties. Menaçant la plante, elle lui dit « Attends, je vais prier Dieu et il te fera très mal. Dieu peut faire du mal à tous. Il peut même punir maman. » Parfois, elle était en proie à une douce mélancolie. Elle se serrait contre moi et levait au ciel ses yeux bleus qui semblaient toujours attendre quelque chose. Grand-mère est quelquefois en colère. Maman ne l'est jamais. Elle rit toujours. Tout le monde l'aime. Elle est toujours pressée. Il vient toujours des visiteurs, qui la regardent parce qu'elle est belle. Elle est mignonne, maman. Olesoff le dit aussi. J'aimais beaucoup à écouter cette fillette. Elle me parlait d'un monde qui m'était inconnu. Elle ne tarissait pas sur le compte de sa mère. Peu à peu se révélait à moi une vie nouvelle. De nouveau, je me rappelais la reine Margot. Ma confiance s'accrut pour les livres, comme aussi mon intérêt pour l'existence. Un soir, comme j'étais assis sur le perron, attendant mes patrons qui avaient été se promener sur l'Otkos et que je tenais la petite fille endormie dans mes bras, la mère arriva à cheval. Elle sauta légèrement à terre et, la tête rejetée en arrière, elle me demanda « Qu'a-t-elle ? Elle dort ?»«
Oui. »«
Ah !» Le soldat Tioufaïev accourut et prit le cheval. La dame glissa sa cravache dans sa ceinture et me cria en tendant les bras « Donne-la-moi ! Donne-la-moi ! Vite ! Hein ? Vite !» La petite se réveilla, cligna des yeux, regarda sa mère et lui tendit les bras. Elles s'en allèrent. Quelques instants après, la femme de chambre aux yeux bigles m'appelait. La petite fille avait des caprices. Elle ne voulait pas se coucher avant de m'avoir souhaité une bonne nuit. Très fière, surtout vis-à-vis de la dame, je pénétrai dans le petit salon. L'enfant était assis sur les genoux de sa mère, qui la déshabillait avec des gestes adroits. « Eh bien, le voilà !» dit celle-ci. « Il est là, ce monstre !»«
Ce n'est pas un monstre, c'est mon petit garçon !»«
Ah, vraiment, c'est bien. Eh bien, nous allons lui faire un cadeau à ton petit garçon. Veux-tu ?»«
Oui, oui !»«
Très bien, je lui donnerai quelque chose. Et toi, tu iras te coucher. »«
Adieu,
à demain !» dit la petite en me tendant la main. « Que Dieu te protège jusqu'à demain !» La dame s'exclama avec étonnement.
« Qui t'a appris à dire cela ? Ta grand-mère ?»«
Oui !» Quand elle fut sortie, la dame me fit un signe du doigt.
« Que veux-tu que je te donne ?»
Je répondis qu'elle n'avait pas besoin de me faire un cadeau. Mais avait-elle un livre à me prêter ? De ses doigts brûlants et parfumés, elle me souleva le menton et elle me demanda avec un charmant sourire « Ah, tu aimes à lire. Qu'as-tu lu ?» Quand elle souriait, elle était encore plus belle. Tout confus, je lui citai quelques titres.
« Que trouves-tu de joli à tout cela ? »
questionna-t-elle, les mains posées sur la table. Ses doigts remuaient un peu. Un parfum à la fois fort et doux se dégageait de sa personne et se mêlait bizarrement à une odeur de sueur de cheval. Elle me regardait à travers ses longs sourcils d'un air pensif et sérieux. Jamais personne ne m'avait regardé de la sorte jusqu'alors. Une telle quantité de meubles rembourrés encombrait la pièce qu'on y était à l'étroit, comme dans un nid d'oiseau. L'épais feuillage des jardinières voilait les fenêtres. Dans la pénombre, les carreaux blancs du poêle étincelaient. Tout à côté se trouvait un piano à queue. Au mur, dans des cadres d'or terni, je vis des parchemins sombres, couverts de gros caractères en langue slave ancienne. Et sous chacun de ces documents était suspendu à un cordon un grand cachet noir. Et, comme moi, toutes ces choses regardaient la dame d'un air timide et soumis. Tant bien que mal, je lui expliquai que ma vie était pénible, difficile, et que je l'oubliais en lisant.
« Ah, c'est ainsi, » dit-elle en se levant.
« Eh bien, c'est entendu, je te donnerai des livres, mais je n'en ai pas sous la main. Pourtant, si, tiens, prends celui-ci. » Elle prit sur le canapé un volume fripé à couverture jaune. « Quand tu l'auras fini, je te donnerai la suite, il y a 4 volumes. » Je m'en allais en emportant Les mystères de Pétersbourg, du prince Metchersky, et je me mis à lire avec beaucoup d'attention. Mais dès les premières pages, je constatai que les mystères de la capitale russe étaient moins captivants que ceux de Madrid, de Londres ou de Paris. Seule la fable de la liberté et du gourdin me parut amusante. « Je te suis supérieure, » dit la liberté, « parce que j'ai plus de raison. » Mais le gourdin lui répondit « Non, je te suis supérieur, parce que je suis plus fort que toi. » Ils discutèrent tant et si bien qu'ils se battirent. Le gourdin roua de coups la liberté, qui, je me le rappelle, en mourut à l'hôpital. Dans ce livre, il était question d'un nihiliste. Je me souviens aussi que, d'après le prince Metcherski, un nihiliste est un homme si venimeux que son seul regard tue les poules. Le mot nihiliste me parut outrageant et indécent. Je ne compris d'ailleurs rien d'autre. Le désespoir s'empara de moi. Évidemment, je ne savais pas comprendre les bons livres, et j'étais persuadée que ce livre-là devait être excellent. Une aussi grande dame et si belle n'allait certes pas en lire de médiocre. « Eh bien, il t'a plu ? » demanda-t-elle lorsque je lui rendis le volume jaune. J'eus beaucoup de peine à lui répondre que non, pensant qu'elle se fâcherait. Mais elle ne fit qu'en rire. Passant derrière la portière de sa chambre à coucher, elle en rapporta un petit homme relié de cuir bleu. « Cela te plaira, j'en suis sûre, mais ne le salis pas. » C'étaient les poèmes de Pouchkine. Je les lus tous d'un coup. Saisie de cette extase qu'on éprouve en découvrant un endroit d'une beauté inouïe, on a toujours envie de tout voir à la fois. Quand on a longtemps cheminé sur les mottes moussues d'un bois marécageux et que soudain se déroule devant vous une clairière sèche, toute brillante de soleil et de fleurs, pendant un instant, on la contemple, émerveillée. Puis on court de tous côtés, grisé de bonheur. Chaque contact du pied avec les herbes fragiles vous inspire une douce joie. Pouchkine me ravit par la simplicité et l'harmonie de son vers, au point que pendant longtemps, la prose me parut contraire à la nature. J'étais gêné en la lisant. Le prologue de Rousselan me rappelait les plus beaux contes de grand-mère, miraculeusement réunis en un seul. Et quelques lignes me frappèrent par leur justesse, nettes comme une médaille. Là-bas, sur des sentiers inconnus, des traces d'animaux jamais vus. Je me répétais mentalement les vers splendides, et je voyais les sentiers à peine tracés que je connaissais bien. Je découvrais les traces mystérieuses, révélées par l'herbe foulée, constellées de gouttes de rosée encore suspendues. Je me rappelais, avec une facilité prodigieuse, les vers à l'harmonie sonore qui donnaient un décor de fête à tout ce qu'ils évoquaient. J'en étais heureux. Ma vie en devenait facile et agréable. Ces poèmes étaient comme l'annonciation d'une existence nouvelle. Quel bonheur que de savoir lire! Ce que je comprenais le mieux, ce qui m'était le plus familier, c'étaient les merveilleux contes de Pouchkine. Pour les avoir lus à plusieurs reprises, je les connaissais par cœur. Quand je me couchais, je me récitais des vers, les yeux fermés, jusqu'au moment où je m'endormais. Souvent, je racontais ces légendes aux ordonnances. Ils riaient aux éclats, juraient sans malveillance, et Sidorov me caressait la tête en murmurant « Hein, c'est beau, ah, mon Dieu !» L'émotion à laquelle j'étais en proie fut remarquée par mes patrons. La vieille grogna. « Il ne fait que lire, ce garnement, et voilà 3 jours que le samovar n'a été poli. Ah, si je prends le bâton !» Le bâton m'effrayait bien peu. Le bâton, je me défendais contre le bâton avec des vers. Aimant le mal de son âme noire, la vieille sorcière... La dame grandit encore à mes yeux. Voilà les livres admirables qu'elle lisait. Je lui rapportai le livre et le lui rendis avec tristesse. Elle me dit d'un ton assuré, « Il t'a plu, n'est-ce pas ? Tu as entendu parler de Pouchkine ?» J'avais déjà lu un article sur le poète dans une revue, mais désireux de l'entendre dire ce qu'elle en savait, je répondis que non. Elle me raconta brièvement la vie et la mort de Pouchkine. Puis elle conclut avec un sourire, suave comme une journée de printemps. « Tu vois comme il est dangereux d'aimer les femmes. » Elle se mit à m'interroger sur les vers que je préférais. Je répondis je ne sais quoi en gesticulant, en récitant des poèmes par cœur. Elle m'écoutait, grave et silencieuse. Puis elle se leva et se mit à aller et venir dans la pièce en disant d'un ton pensif « On devrait t'envoyer à l'école, petit phénomène. Je vais y réfléchir. Tu es apparenté à tes maîtres ?» Quand je répondis par l'affirmative, elle s'exclama « Oh !» comme si elle me blâmait. Elle me donna les chansons de Béranger, une très jolie édition à tranches dorées, à reliure de cuir rouge, ornée de gravures. Ces poésies m'affolèrent totalement par leur mélange intime de chagrin douloureux et de gaieté turbulente. Bien souvent, Béranger fit naître en moi une sorte de frénésie, le besoin d'être insolent, le désir de dire aux gens des sottises et des impertinences. En très peu de temps, je passai maître en cet art. J'appris également ces vers par cœur, et je les lisais avec grand plaisir aux ordonnances. Mais je dus bientôt renoncer à mes brèves visites dans leur cuisine, car les vers, quel bonnet ne siérait pas à une jeunesse de 17 ans, servirent un jour de thème à une répugnante conversation sur les jeunes filles. J'en fus révolté et si furieux que je frappai le soldat Yermokin à la tête avec une casserole. Sidorov et les autres ordonnances m'arrachèrent à ses mains brutales, mais depuis lors, je n'osais plus m'aventurer dans les cuisines des officiers. Chapitre 14. On ne me permettait pas d'aller me promener. D'ailleurs, la besogne ne faisait que croître. En plus de mon travail habituel de femme de chambre, de porteur et de commissionnaire, je devais tendre tous les jours du calicot sur de grandes planches et le clouer, y coller des plans, copier des devis de construction établis par le patron, vérifier les mémoires des entrepreneurs. Le patron travaillait du matin au soir comme une machine. À cette époque-là, les bâtiments municipaux de la foire étaient en voie de devenir la propriété privée des marchands. On transformait à la hâte les galeries et les passages. Mon patron se chargeait aussi bien de la réparation des anciennes boutiques que de la construction des neuves. J'allais porter les pots de vin à l'inspecteur de la foire et à d'autres fonctionnaires compétents qui me délivraient les « papiers d'autorisation pour toutes illégalités ». Comme mon patron appelait ce genre de document. En échange, j'avais le droit d'attendre mes patrons à la porte, sur le perron, quand ils s'en allaient en visite le soir. Le fait ne se produisait pas souvent, mais ils rentraient après minuit, et pendant plusieurs heures de suite, je m'asseyais sur le carré, ou bien sur un tas de planches, en face, regardant aux fenêtres de l'appartement de la dame, écoutant avec avidité la musique et les joyeuses conversations. Les fenêtres étaient ouvertes. À travers les rideaux et les fleurs, je voyais les élégantes silhouettes des officiers qui allaient et venaient dans les salons. Le gros major roulait. La dame paraissait flotter, vêtue d'une manière étonnamment belle et simple. En me parlant à moi-même, je l'appelais la reine Margot. La voilà, cette vie joyeuse dont il est question dans les livres, pensais-je en regardant dans l'appartement. Et j'étais toujours un peu attristée. Ma jalousie enfantine souffrait de voir des hommes entourer la reine Margot. Ils tournoyaient autour d'elle comme des guêpes autour d'une fleur. Un officier, grand et mélancolique, au front balafré, aux yeux cachés au fond de l'orbite, et qui venait moins souvent que les autres, apportait chaque fois son violon, et il en jouait si merveilleusement que les passants s'arrêtaient sur le trottoir. Les habitants de la rue se groupaient sur le tas de planches, et mes patrons eux-mêmes, s'ils étaient à la maison, ouvraient les fenêtres, écoutaient le musicien et applaudissaient. Parfois l'officier chantait ou récitait des vers d'une voix sourde. Il haletait et appliquait la main contre son front. Un jour, comme je jouais sous la fenêtre avec la petite fille, la reine Margot lui demanda de chanter. Il refusa, malgré toutes les prières, et finit par déclarer d'une voix nette
C'est à la chanson qu'il faut de la beauté. La beauté n'a pas besoin de chanson. » Ces vers me plurent beaucoup, et sans que je susse pourquoi, l'officier m'inspira de la sympathie. J'aimais à regarder madame quand elle était assise au piano et qu'elle jouait toute seule dans la chambre. La musique m'enivrait. Dans mon extase, je ne voyais que la fenêtre et, plus loin, sous la jaune clarté de la lampe, qu'une harmonieuse silhouette de femme au profil hautain, aux mains blanches, voltigeant sur le clavier, légère comme des oiseaux. Je la regardais, j'écoutais la mélodie mélancolique, et je rêvais que si je découvrais un trésor, je le lui donnerais tout entier pour qu'elle fût riche. Si j'avais été Chobelef, j'aurais de nouveau déclaré la guerre aux Turcs. Récompensé magnifiquement, je me serais empressé de construire sur Lotkos, à l'endroit le plus aristocratique de notre ville, un hôtel que je lui aurais offert, afin qu'elle quittât cette rue et cette maison, où tout le monde ne parlait d'elle que pour la diffamer et la salir. Les voisins, et toute la valetaille de la cour, et mes patrons en particulier, tous jugeaient la reine Margot avec la même malveillance et la même indécence que la coupeuse, mais avec plus de précaution, en baissant la voix pour n'être pas entendue. On avait peur d'elle, peut-être parce qu'elle était veuve d'un homme très haut placé. Les lettres de noblesse pendues au mur de ses salons avaient été accordées aux ancêtres de son mari par les anciens tsars russes. Peut-être aussi les gens avaient-ils peur qu'elle ne les cinglât de sa cravache au pommeau orné d'une pierre violette. On racontait qu'elle s'en était déjà servie pour châtier un fonctionnaire important. Mais les paroles chuchotées ne valaient pas mieux que celles que l'on prononçait tout haut. La dame de mon âme vivait dans une atmosphère d'hostilité, d'une hostilité vile que je ne comprenais pas et qui me tourmentait. Victor racontait qu'étant rentré très tard une nuit, il avait jeté un coup d'œil par la fenêtre de la chambre à coucher de la reine Margot. Il avait vu celle-ci, assise en chemise sur le canapé, et le major, agenouillé devant elle, lui coupait les ongles des pieds et les essuyait avec une éponge. La vieille jurait et crachait. La jeune femme piaillait en rougissant. « Fi, Victor, tu nous scandalises! Ah, quels abominables gens que ces belles dames et ces officiers !» Le patron gardait sur le silence et souriait. Je lui étais très reconnaissant de ce qu'il se tut, mais je craignais sans cesse que lui aussi ne prît part à ce concert de calomnies. Tout en glapissant et en poussant des « oh » et des « ah », les femmes questionnaient Victor. Comment la dame était-elle assise? Comment le major se tenait-il? Et Victor ajoutait de nouveaux détails. Il tirait la langue, et il était rouge comme un bœuf. Je ne vis rien d'extraordinaire à ce que le major taillât les ongles de la dame, mais je ne pus croire qu'il tirait la langue. C'était un affreux mensonge, et je dis à Victor « Si c'est mal tout ça, pourquoi avez-vous regardé par la fenêtre ?» On m'accabla d'invectives, naturellement, mais les injures ne me blessaient pas. Je n'avais qu'une envie, descendre à l'étage au-dessous, me mettre à genoux devant la dame, comme l'avait fait le major, et la supplier de changer de demeure. Depuis que je savais qu'il y avait une autre manière de vivre, d'autres gens, des pensées et des sentiments différents, cette maison, avec tous ses habitants, m'inspirait la plus profonde répulsion. Quand on parlait mal de la reine Margot, tout mon être se révoltait. Ah, ce n'était plus des colères d'enfant. Mon cœur se gonflait de haine contre les calomniateurs. J'éprouvais un violent désir de les insulter, de leur faire du mal. En d'autres moments, je ressentais une douloureuse pitié pour moi-même et pour tous ces gens. Mais cette pitié muette était encore plus torturante que la haine. J'en savais beaucoup plus long qu'eux au sujet de la reine Margot.
et je craignais qu'ils ne fussent bientôt aussi informés que moi. Les dimanches, quand les patrons s'en allaient à la grand-messe, à la cathédrale, j'allais chez la dame le matin. Elle m'appelait dans sa chambre à coucher. Je m'asseyais dans un petit fauteuil couvert de soie dorée, la petite fille montait sur mes genoux, et je parlais à sa mère des livres que j'avais lus. Elle était couchée dans son large lit, le menton appuyé sur ses petites mains jointes. Son corps était caché sous la couverture couleur d'or, comme tout ce qui était dans la chambre. Ses cheveux noirs, coiffés en natte, tombaient sur son épaule et pendaient parfois du lit jusqu'à terre. Elle m'écoutait et me regardait de ses yeux caressants. Avec l'ombre d'un sourire, elle disait « Ah, vraiment ?» Souvent, je la trouvais devant son miroir. Assise sur un fauteuil bas, elle se coiffait. Les extrémités de ses cheveux arrivaient à ses genoux, sur les bras du fauteuil, et couvraient le dossier jusqu'au plancher. Elle avait les cheveux longs et épais comme grand-mère. Je voyais dans la glace ses seins fermes et brunis. Elle mettait ses bas, son corsage, mais sa nudité pure n'excitait en moi aucun désir honteux. J'étais simplement heureux et fier d'elle. Elle exhalait une odeur de fleurs, odeur qui la protégeait contre les mauvaises pensées. J'étais bien portant et robuste, je connaissais parfaitement les mystères des relations entre hommes et femmes. Mais on en parlait devant moi avec une malveillance si impitoyable, avec une telle férocité, d'une façon si malpropre, que je ne pouvais me représenter cette femme dans les bras d'un homme. Il m'était pénible de penser que quelqu'un avait le droit de la toucher avec audace, avec impudeur, que quelqu'un pouvait être le maître de son corps. J'étais persuadée que l'amour des cuisines et des mansardes était inconnu de la reine Margot. Elle connaissait d'autres joies, un autre amour bien supérieur. Mais un après-midi, à la tombée de la nuit, en pénétrant dans le petit salon, j'entendis, derrière la portière de la chambre à coucher, le rire sonore de la dame de mon cœur, et une voix masculine qui disait « Mais attends donc ! Mon Dieu, je ne crois pas ! J'aurais dû me retirer discrètement, je le sentais bien, mais je ne le fis pas. « Qui est là ? » demanda-t-elle. « Toi, Alexis, entre !» Dans la chambre, l'air était étouffant, imprégné du parfum des fleurs. Il y faisait sombre, les rideaux étant baissés. La reine Margot était couchée dans le lit, la couverture remontée jusqu'au menton. Et à côté d'elle, en chemise, la poitrine découverte, l'officier violoniste était du côté de la paroi. Une cicatrice lui barrait les seins, une bande rouge qui allait de l'épaule droite à la place du cœur. Elle était si nette que je la distinguais clairement dans la pénombre. Les cheveux de l'officier étaient ébouriffés, et ce fut la première fois que je vis un sourire sur son visage couturé et mélancolique. Il souriait d'une façon bizarre, et ses grands yeux regardaient la reine Margot comme s'il venait seulement d'en découvrir la beauté. « C'est mon ami, » dit la reine Margot. Je ne savais pas à qui elle parlait, à lui ou à moi. « Pourquoi as-tu peur ?» Sa voix résonnait comme si elle venait de très loin. « Viens ici !» Je m'approchai de son bras nu et brûlant. Elle me prit par le cou et dit « Quand tu seras grand !» « Tu seras heureux, toi aussi. Va-t'en. » Je posai le livre sur un rayon. J'en tirai un autre de la rangée et je sortis comme j'étais entrée. Quelque chose se brisait dans mon cœur. Évidemment, je n'avais jamais imaginé que ma reine pût aimer comme toutes les femmes. Et d'ailleurs, l'officier ne me permettait pas de le supposer. Je revoyais son visage, son sourire. Il souriait avec béatitude, tel un enfant étonné. Son visage sombre s'était miraculeusement transfiguré. Il l'aimait sans doute. Pouvait-on ne pas l'aimer? Et elle aussi pouvait lui faire la généreuse offrande de son amour. Il jouait si bien. Il disait les vers avec tant d'émotion.
mais du fait même que je devais recourir à ces complaisantes excuses, je m'aperçus que tout n'était pas juste ni bien dans la manière de vivre de la reine Margot. Je sentais que j'avais perdu quelque chose, et je passai plusieurs journées en proie à une profonde tristesse. Un jour, venu chez la dame pour chercher un livre, je lui racontai combien l'existence m'était insupportable, combien il m'était pénible d'entendre les gens la calomnier. Debout devant moi, une main posée sur mon épaule, elle m'écouta d'abord avec attention, gravement. Mais bientôt elle éclata de rire et me repoussa d'un léger geste. « Assez, je sais tout cela, crois-le bien, je sais tout !» Puis elle me prit par les deux mains et me dit d'un ton caressant « Moins tu feras attention à toutes ces horreurs, et mieux tu te porteras. D'abord, tu devrais tenir tes mains plus propres. » Elle aurait pu se dispenser de cette remarque. Si elle avait poli les cuivres, lavé les planchers et lessivé les langes, ses mains, pensais-je, ne seraient pas plus nettes que les miennes. Quand on sait vivre, les gens vous envient et sont furieux. Mais quand on ne sait pas vivre, ils vous méprisent. » fit-elle d'une voix pensive. Elle me souleva, m'attira à elle et me fixa en souriant. « Tu m'aimes ?»«
Oui. »«
Beaucoup ?»«
Oui. » »«
Et comment ?»«
Je ne sais pas. » »«
Merci, tu es un brave garçon. J'aime qu'on m'aime. » Elle sourit. Elle allait dire quelque chose, mais, poussant un soupir, elle se tut sans me lâcher. « Viens me voir plus souvent. Viens dès que tu as un moment. »
Je profitai de l'autorisation et je tirai nombre d'avantages de la fréquentation de la dame. Après le dîner, mes patrons allaient se coucher. Je descendais en hâte et, quand elle était à la maison, je restai chez elle une heure et même davantage.
« Il faut lire des livres russes. Il faut connaître notre existence à nous, russes, » me disait-elle. Et de ses doigts fins et adroits, elle sortait les épingles de sa vaporeuse coiffure. Après m'avoir énuméré les noms des plus grands écrivains russes, elle m'interrogeait. « Tu te les rappelleras ?» Elle disait souvent avec un peu de dépit et de tristesse. « Il faudrait t'envoyer à l'école, te faire étudier, et je l'oublie sans cesse. » La visite terminée, je remontai chez mes patrons, un livre nouveau dans les mains, et mon cœur me semblait purifié. J'avais déjà lu « La chronique familiale » d'Aksakov, le beau poème russe « Dans les forêts », les étonnants « Mémoires d'un chasseur », quelques tomes de Grebenko et de Sologoub, et les vers de Venevetinov, de Dostoïevski, de Tchoutchev. Ces livres lavaient mon âme, la débarrassaient de l'écorce formée par les impressions de la réalité amère et indigente. Je compris ce qu'étaient les bons livres, et je compris aussi combien ils m'étaient indispensables. Peu à peu, ils me donnèrent une inébranlable assurance. Je n'étais plus seul au monde, et je ne périrais pas. Grand-mère venait. Je lui parlais avec enthousiasme de la reine Margot. Ma bonne aïeule prenait une prise de tabac et disait, satisfaite et convaincue, « Tant mieux, tant mieux. Il y en a beaucoup de braves gens. Le tout est de les chercher, et on les trouve. » Une fois, elle me proposa « Il faut peut-être que j'aille la remercier des bontés qu'elle a pour toi. »« Non, non, n'y va pas. »«
Comme tu voudras, je n'irai pas. »«
mon Dieu, comme tout s'arrange bien. » La reine Margot n'eut pas le temps de s'occuper de mon instruction. À la Trinité, une histoire désagréable survint qui faillit m'anéantir.